بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، آمين. وبعد، avant de commencer, j'aimerais mettre en application un des hadiths de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rapporté par l'imam Abu Daoud et autres, et authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yashkuru Allah man la yashkuru an-nas. Il ne remercie pas Allah celui qui ne remercie pas les gens. Donc on remercie toutes les personnes qui ont été la cause de cette assise et de notre rencontre aujourd'hui. On les remercie et on leur demande, ou on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les récompenser par le bien. Nous allons, Inch'Allah ou Ta'ala, aujourd'hui discuter de quelques calamités présentes à notre époque et dans lesquelles certains de nos frères sont tombés. Elles sont une désobéissance à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et malheureusement, certains parmi les musulmans les ont minimisées malgré le fait qu'elles ont été rendues illicites par le Coran et la Sunna. Il a été rapporté de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, il a dit: les choses licites sont bien évidentes et les choses illicites sont bien évidentes. Entre les deux, il y a des choses équivoques que beaucoup de gens ignorent. Ainsi, quiconque se met à l'abri des choses équivoques préserve donc sa religion et son honneur. Et quiconque s'est laissé tomber dans les choses équivoques tombera dans les choses illicites. Comme le berger qui fait paître son troupeau autour d'un enclos réservé, risquant à tout moment de l'empiéter. Or, chaque souverain à un domaine réservé, celui d'Allah et l'ensemble de ses interdits. N'est-ce pas qu'il y a dans le corps humain un morceau de chair, moudra, qui, s'il est bon, tout le corps le sera. Et s'il est corrompu, tout le corps le sera. N'est-ce pas que c'est le cœur, comme l'a rapporté l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clarifié que les choses se divisent en trois catégories. Soit elles sont halal, soit elles sont haram, soit elles sont équivoques. Par conséquent, l'individu profitera du halal et délaissera le haram. Et en ce qui concerne ce qui est équivoque, alors le mieux pour lui est de le délaisser afin de préserver sa religion et son honneur, comme nous l'a dit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de doute que les calamités que nous allons mentionner aujourd'hui font partie de la deuxième catégorie, c'est-à-dire des choses illicites, haram, bien évidente, et ceci même si certaines personnes, malheureusement à notre époque, ont été confus sur le sujet. Et donc cette assise est avant tout un conseil pour moi-même et pour mes frères dans le fait de délaisser ces calamités qu'on va mentionner et pour lesquelles on va clarifier les preuves de leur interdiction provenant du Coran et de la Sunna, ces calamités qui ont malheureusement corrompu beaucoup de musulmans. La première de ces calamités, c'est la cigarette. Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala a dit: les preuves de la législation islamique sont venues indiquer le caractère haram de la cigarette. Et ceci est dû à ce qu'elle englobe comme souillure et comme préjudice. Et Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite pour ses serviteurs seulement les aliments et les boissons qui sont sains et profitables. Alors que ce qui est néfaste pour leur religion ou pour leur dunya, Allah subhanahu wa ta'ala leur a rendu haram. Et il, Azza wa Jal, est plus miséricordieux envers eux qu'ils le sont avec eux-mêmes. Et il est le sage par excellence et le plus savant dans ses paroles, dans ses actes, dans sa législation et dans sa prédestination. Ainsi, il ne rend pas une chose haram inutilement, et il ne crée pas une chose sans fondement, et il n'ordonne pas une chose sans qu'il y ait un bénéfice pour ses serviteurs. Car il est, subhanahu wa ta'ala, le plus juste des justes, et le plus miséricordieux des miséricordieux. Et il est celui qui connaît ce qui réforme les serviteurs et ce qui leur profite dans l'immédiat et dans le futur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, au sens approché: ton Seigneur est certes sage et omniscient, Et il dit également Azza wa Jal, au sens approché, Allah est certes omniscient et sage. Et les versets dans ce sens sont nombreux. Et parmi les preuves du Coran sur l'interdiction de la cigarette, la parole d'Allah dans la sourate Al-Ma'ida, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sens approché, il t'interroge sur ce qui leur est permis. Dis, vous sont permises les bonnes choses. Et il azza wa jal dit dans la sourate Al-A'raf, dans la description de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié dans ces deux versets qu'il a permis pour ses serviteurs seulement les bonnes choses, c'est-à-dire les nourritures et les boissons qui sont bénéfiques. Mais concernant les nourritures et les boissons nuisibles, telles que les choses enivrantes ou les drogues et toutes les choses nuisibles pour la religion ou le corps ou l'esprit, alors ceux-ci font partie des choses mauvaises, haram. Et l'ensemble des médecins, ainsi que les spécialistes de la cigarette et de ses méfaits sont unanimes pour dire que la cigarette fait partie des choses très nuisibles. Et ils ont mentionné que la cigarette est la cause de nombreuses maladies telles que les cancers, les AVC et autres. Par conséquent, comme ceci est avéré, il ne fait aucun doute que ceci est haram et qu'il faut mettre en garde contre ceci. Il ne fait aucun doute donc que ceci est haram. Il n'est donc pas permis pour celui qui est censé de se délaisser. Il n'est donc pas permis pour celui qui est censé de se laisser tromper par le grand nombre de ceux qui fument. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, au sens approché, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjoncture et ne font que fabriquer des mensonges. Et il a dit subhanahu wa ta'ala au sens approché, ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux, ou plutôt ils sont plus égarés encore du sentier. Il n'est donc pas permis de fumer la cigarette, ni de la vendre, ni de faire du commerce avec, du fait de son grand mal et de son résultat nocif. Et il est obligatoire pour celui qui fume ou qui vend des cigarettes de se hâter à se repentir envers Allah subhanahu wa ta'ala et de regretter ce qui s'est passé et d'avoir la ferme intention de ne pas recommencer. Et celui qui se repent sincèrement, alors Allah accepte son repentir comme il l'a cité dans le Coran au sens approché, et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Et il dit également Azza wa Jal au sens approché, et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui se repent d'un péché est semblable à celui qui n'a pas de péché, comme l'a rapporté Ibn Majah, rahimahullah, et qui a été jugé bon par Sheikh al-Albani, rahimahullah, fin de citation de l'imam Ibn Baz, rahimahullah. Donc ça, c'est la première calamité, la cigarette. Peut-être beaucoup d'entre vous pensent, la cigarette, c'est loin de nous, loin des frères salafis, on n'est pas touché, mais malheureusement, mes frères, il y a des frères du minhaj, du minhaj salafi, qui malheureusement sont tombés dans ce péché et qui sont dans une grande fitna avec la cigarette. Également, il est important de connaître ce sujet pour pouvoir répondre aux ambiguïtés que certaines personnes peuvent dire en disant que la cigarette n'est pas interdite, n'est pas haram. Et on a vu aujourd'hui les preuves du Coran que la cigarette est haram, et on a maintenant les outils et les armes pour répondre à ces ambiguïtés. Donc il est important de voir le sujet. La deuxième de ces calamités, c'est le fait de raser sa barbe. En effet, la barbe est une grande bénédiction par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé les hommes et les a différenciés des femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a rendu pour eux la barbe comme un signe de beauté, pour ce qu'elle implique comme signe de virilité, de prestige et de prestance. Et il n'est pas seulement des poils qui poussent sur le visage, mais elle fait partie des rites apparents de l'islam, par lequel on se rapproche d'Allah en la laissant pousser et en la respectant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran au sens approché, et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Elle est donc une sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de la laisser pousser et de ne pas la raser. Et malgré tout ce qui est venu concernant le respect de la barbe ainsi que l'ordre de la laisser pousser, on voit que beaucoup de musulmans à notre époque, qu'Allah nous guide et les guide, méprisent et se moquent de ces quelques poils, et également rasent leur visage et celui qui ne la rase pas complètement, il la taille et s'amuse avec en la taillant de toutes les manières possibles. Il est important de savoir que le fait de laisser pousser sa barbe fait partie de la voie des prophètes et des messagers, alayhim salatu wa salam, et également des nobles compagnons et des pieux prédécesseurs de cette communauté, qu'Allah soit satisfait tous d'eux. Ainsi, il n'a pas été rapporté qu'un seul d'entre eux rasait sa barbe, mais c'est plutôt le contraire. Ils honoraient la barbe et ils élevaient son rang. Qais ibn Sa'd, radiallahu anhu, qui était un sahabi parmi les Ansar, était un homme qui n'avait pas de barbe. Son peuple, les Ansar, dirent « Quel bon chef que Qais, de par son courage exceptionnel et de sa grande âme, mais il n'a pas de barbe. Par Allah, si on pouvait acheter des barbes avec de l'argent, on l'aurait fait. Ni pour lui. » Et ceci est dû seulement au fait qu'il considérait la barbe comme un signe de beauté, de virilité et d'excellence pour la personnalité du musulman. Alors qu'à notre époque, beaucoup parmi les jeunes musulmans ne penseraient pas acheter une barbe, mais plutôt ils payent une fortune pour enlever la barbe de leur visage. Certains même aimeraient plutôt l'éliminer définitivement et seraient prêts à payer des milliers d'euros pour cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, sans s'approcher, je leur commanderai et ils altéreront, yani ils changeront la création d'Allah. Ainsi, le fait de raser sa barbe ou de la diminuer fait partie de l'altération dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, différenciez-vous des associateurs, al-mushrikoun, laissez pousser les barbes et raser les moustaches, rapporté par al-Bukhari et Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, taillez les moustaches et laissez les barbes, comme l'a rapporté l'imam Muslim. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne taille pas la moustache ne fait pas partie des nôtres, rapporté par Muslim. Et donc l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam implique l'obligation, comme il est bien connu chez les usuliyins. Et l'imam Ahmed rapporte dans un hadith authentique d'Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laissez pousser les barbes et taillez les moustaches et ne ressemblez pas aux juifs et aux chrétiens. Et Abu Daoud rahimahullah ta'ala a rapporté d'Ibn Umar radiallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ressemble à un peuple, alors il fait partie d'eux. Et l'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas des nôtres celui qui ressemble à autre que nous, ne ressemblez pas aux juifs ni aux chrétiens. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit, ainsi le fait de se différencier d'eux est un commandement du législateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de le ressembler dans l'apparence amène à les aimer et à les soutenir intérieurement, tout comme les aimer intérieurement amène à leur ressembler extérieurement. Et ceci est une chose qui est connue concrètement et par expérience. Et Cheikh al-Islam continue et dit, et le ressembler dans ce qui n'a pas été rapporté dans notre législation implique l'interdiction, et cela peut même être un grand péché, jusqu'à que dans certains cas cela devient de la mécréance, et tout ceci selon les preuves légiférées. Et il ajoute rahimahullah Cheikh al-Islam également que le Coran et la Sunna ainsi que le consensus des savants indiquent l'obligation de se différencier des mécréants et de ne pas leur ressembler dans la globalité. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte que Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup de poils dans sa barbe. Et l'imam al-Nasa'i rapporte dans un hadith authentique que le compagnon al-Bara radiallahu anhu a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme avec une barbe touffue, pas très longue. Et l'imam Ahmed rapporte un hadith d'Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu où il décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il mentionne qu'il avait sallallahu alayhi wa sallam une barbe imposante. Et Abu Muhammad ibn Hazm a rapporté le consensus des savants sur le fait que tailler la moustache et laisser pousser la barbe est une obligation. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit qu'il est haram de raser sa barbe. Al-Qurtubi rahimahullah a dit, il n'est pas permis de la raser, ni de l'épiler, ni de la réduire. Et Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala a dit également, certes l'entretien de la barbe et le fait de la laisser pousser est une chose obligatoire et il n'est pas permis de négliger cela. Donc on voit que les savants
les anciens et les savants de notre époque sont tous unanimes pour dire que laisser pousser la barbe est une obligation pour le musulman. Et certains savants ont permis de couper ce qui dépasse de la barbe en dessous du poing. C'est-à-dire le fait de prendre sa barbe avec la main, le poing, et de couper ce qui dépasse. Comme cela a été rapporté de façon authentique d'Ibn Umar, radiallahu anhuma. Cependant, la plupart des savants voient que ceci est détestable. Et ceci semble être l'avis le plus correct par rapport aux preuves qu'on a citées auparavant. Et An-Nawawi, rahimahullah, a dit, ce qui est correct, c'est le fait de la laisser comme elle est. C'est-à-dire vous touchez rien de votre barbe. Et sachez que la beauté n'est pas dans le rasage de la barbe. Comment Allah subhanahu wa ta'ala crée un homme et le différencie des femmes par sa virilité, par sa barbe dans laquelle il y a un signe de prestance et de beauté. Et ensuite cet homme n'est pas satisfait de ceci. Il part changer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala en ressemblant aux femmes et aux ennemis de l'islam. Et il s'imagine que dans ceci il y a une beauté supplémentaire et une élégance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran au sens approché, celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit belle. Allahu Akbar. Comme si la beauté et l'élégance se concrétisent seulement par le rasage de la barbe ou par sa diminution. Wallah les frères, wallah, la beauté d'un homme ainsi que sa splendeur et son prestige résident dans le fait qu'il laisse sa barbe comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Car Allah sait mieux ce qui convient à l'homme. Alors comment un musulman doué de raison peut refuser ce qu'Allah a choisi pour lui? Et si Allah avait voulu que l'homme soit sans barbe, rien n'aurait pu l'empêcher de cela. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de différencier l'homme de la femme et il, azza wa jal, a honoré l'homme par cette barbe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, différenciez-vous des associateurs, laissez pousser les barbes et rasez les moustaches. Mais aujourd'hui, subhanallah, certaines personnes contredisent totalement la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les musulmans, ils ont inversé l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils rasent leur barbe et laissent pousser leur moustache. Oh mon frère, pourquoi cet entêtement? Pourquoi tu contredis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Es-tu dispensé de suivre la sunna? Enfin, sachez mes frères, que raser la barbe n'est pas une petite affaire, comme certains peuvent s'imaginer. Mais il se peut que ceci soit plus grave que certains autres péchés. Car le fait de raser sa barbe implique le fait d'afficher son péché. Yani quand vous avez la barbe rasée, tout le monde voit que vous avez la barbe rasée. Votre péché, il est apparent. Et il est possible que celui qui rase sa barbe ne soit pas pardonné du fait qu'il a affiché ce péché. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith muttafaqun alayhi, rapporté par Bukhari et Muslim, toute ma communauté sera pardonnée, sauf celui qui affiche et mentionne ses péchés. Il faut rajouter à cela le fait que détester la barbe, ou se moquer d'elle, ou de ceux qui la portent, peut conduire à l'apostasie, et à la mécréance, car fait partie des annulatifs de l'islam, le fait de se moquer et de mépriser la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le fait de la détester. Voilà, combien de fois on a entendu des gens qui sont moqués de la barbe parmi les musulmans, en donnant des noms ou en insultant ceux qui avaient des barbes. Ceci rentre dans le fait de se moquer de la religion. Et ceci peut conduire au kufr. Et donc, le musulman doit faire attention à ne pas faire quelque chose qui le fait sortir de l'islam. Et il ne s'en rend même pas compte. Ainsi, ô mon bien-aimé frère, ô celui qui rase sa barbe, repens-toi vers Allah. Et laisse pousser ta barbe comme Allah l'a créée. Et suis la sunna de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, lequel t'a ordonné de ne pas la raser, tout comme tu as obéi à Allah dans la prière, dans le jeûne, dans le hajj et dans les autres obligations. Qu'est-ce qui t'empêche alors de lui obéir dans le fait de laisser pousser la barbe? N'est-ce pas que celui qui t'a ordonné toutes ces choses, la prière, le siyam, tout ça, n'est-ce pas Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qui te fait différencier entre les obligations? Tu l'obéis dans ceci et tu lui désobéis dans cela. Et certes, Allah a blâmé ceux qui ont agi de la sorte parmi les gens du livre. Il a dit, Azza wa Jal, au sens approché, croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie. Et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Ne t'expose donc pas, ô mon bien-aimé frère, à cette condamnation. Et accroche-toi à l'ensemble des obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a données, petites ou grandes. Et ainsi tu seras heureux dans la dunya et dans l'akhirah. La troisième de ces calamités, mes frères, c'est la musique. Parmi les choses qui écartent le plus du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui distrait le serviteur de l'obéissance d'Allah, le fait d'écouter la musique et les instruments. Cette musique et ces instruments qui ont envahi la plupart des maisons musulmanes à notre époque et qui assiègent fortement les maisons où la musique n'a pas encore réussi à pénétrer. Et beaucoup d'hommes et de femmes ont été troublés par la musique, et ceci dû à la faiblesse de leur foi et la diminution de leur intellect. Et les jeunes de cette communauté les ont suivis. Ainsi, ils ont occupé leur temps et rempli leur maison du bruit des chanteurs et des chanteuses qui passent à la radio, à un tel point que beaucoup de jeunes connaissent ces chanteurs et ces chanteuses, ainsi que chaque minute de leurs chansons. Ils connaissent même les heures du jour et de la nuit où ces chansons sont diffusées. Et si tu leur demandes quel est le sens de la ilaha illallah, ils te diront « je ne sais pas ». Et si tu leur demandes quels sont les horaires de la prière, ils te diront « je ne sais pas ». Et si tu leur demandes de te citer un seul des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils te diront « je ne sais pas ». Comment peut-il savoir, et sa ferveur est dirigée vers le contraire de ceci? Celui qui a un doute concernant le caractère haram de la musique et des instruments, alors qu'il enlève ce doute avec la certitude, celle de la parole du Seigneur de l'univers et du messager digne de confiance, lorsqu'ils ont mentionné l'interdiction de la musique et des instruments et qu'ils ont clarifié son mal. On a donc beaucoup de textes provenant du Coran et de la Sunna qui indiquent le caractère haram de la musique et la menace sévère pour celui qui la rend licite. Et le croyant, une seule preuve du Coran et de la Sunna authentique du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala lui suffisent. Alors que dire si les preuves sont multiples à ce sujet? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran au sens approché, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Écoutez donc la parole de votre Seigneur subhanahu wa ta'ala concernant l'interdiction de la musique et sa mise en garde, et la menace sévère contre celui qui fait la musique, celui qui fait de la musique et celui qui l'écoute. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sens approché, et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours, lahwul hadith, pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Et quand on lui récite nos versets, il tourne le dos avec orgueil, comme s'il ne les avait point entendus, comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. Fais-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux. La plupart des exégèses du Coran, ceux qui ont expliqué le Coran, ont dit que le sens de l'ahwul hadith, des plaisants discours dans ce verset, était la musique. Jusqu'à que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a juré trois fois par Allah que le sens dans le verset de plaisants discours ici, c'est la musique. Et écoutez la parole de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'interdiction de la musique et de ses instruments. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y aura des gens dans ma communauté qui vont rendre licite la fornication, le port de la soie pour les hommes, l'alcool et les instruments de musique. » Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé ceux qui rendent licite les instruments de musique, et ceci implique tous les types d'instruments. Et il, sallallahu alayhi wa sallam, a comparé ceci avec le fait de rendre licite la fornication, la soie pour les hommes et l'alcool. Et Abu Malik al-Ash'ari, radiallahu anhu, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il y aura des gens dans ma communauté qui consommeront l'alcool et qui l'appelleront avec une autre dénomination. Ce sera de l'alcool, mais ils lui donneront un autre nom. Et on jouera des instruments de musique pour eux et des chanteuses chanteront pour eux. Allah alors effondrera la terre sur eux et fera sortir d'eux des singes et des porcs, rapporté par Ibn Majah et authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a menacés par l'effondrement de la terre sur eux et la métamorphose en singes et en porcs. Ceci nous indique donc l'atrocité de rendre la musique licite. Et il est rapporté que Aïcha, notre mère Aïcha bint Siddiq radiallahu anhuma, a dit qu'elle a rapporté qu'elle a vu un chanteur qui chantait dans la maison des filles de son frère. Aïcha passa à ses côtés, aux côtés de ce chanteur. Et il l'aperçut en train de chanter. Et il bougeait sa tête d'euphorie. Et il avait beaucoup de cheveux. Alors Aïcha radiallahu anha a dit à propos de lui, ouf, shaytan, sortez-le, sortez-le. Alors ils le sortirent. Aïcha, notre mère Aïcha, bint Siddiq, la fille du véridique, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, a dit quoi? Ouf, shaytan. Elle a appelé ce chanteur shaytan. Sortez-le, sortez-le. Comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari dans son livre Adab al-Mufrad, et que ce hadith a été jugé bon par Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a dit, la musique fait germer l'hypocrisie dans le cœur, comme l'eau fait germer les légumes et les plantes. Et on demanda à l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, à propos du laxisme de certaines personnes à Médine concernant la musique. Alors il répondit, ceux qui font la musique est considéré pour nous comme des pervers. Et Shir ibn Baz, Shir al-Islam, Shir ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit, il n'y a aucun doute sur l'interdiction de la musique, et ceci du fait qu'elle conduit à un grand nombre de péchés et de nombreux troubles. Elle amène à l'amour excessif, ainsi qu'à la fornication et à la turpitude et à l'homosexualité, et elle amène à d'autres péchés encore, telles que la consommation des choses enivrantes, au pari et à la mauvaise compagnie. Et elle est même possible qu'elle te fasse tomber dans le shirk et la mécréance, selon le type de musique. Et cependant, c'est vrai. Ça, on le voit tous les jours. Ceux qui tombent dans la musique, on le voit qui tombent dans ses péchés, subhanallah. Les fléaux de la musique sont très nombreux. Et ces calamités sont dangereuses. Parmi ceux-ci, elles pervertissent le cœur. Elles y sèment l'hypocrisie, comme le mentionnaient les certains salafs, comme on a vu. Elles enlèvent également du cœur l'amour du noble Coran. En effet, il n'est pas possible que soit réuni dans le cœur l'amour du Coran et l'amour de la musique. Car le Coran, c'est la révélation de qui? D'Ar-Rahman. Alors que la musique, c'est la révélation de qui? La révélation de Shaytan. Et il n'est pas possible que la révélation d'Ar-Rahman et la révélation de Shaytan se retrouvent dans le même endroit sans qu'un des deux fasse sortir l'autre. Elle met en colère également Allah subhanahu wa ta'ala, car elle empêche de faire son rappel et de lui obéir. Également parmi les fléaux, elle est la cause de châtiments dans la dunya et dans l'akhirah. L'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, nous a dit, nous avons témoigné et connu par expérience qu'il n'y a pas un peuple dans lequel est apparue la musique et les instruments, puis qui se sont propagés au sein de ce peuple sans qu'Allah fasse triompher les ennemis sur eux, et qu'ils soient éprouvés par la famine, ainsi que la sécheresse et les mauvais gouverneurs. Intaha kalamuhu. Elle est le vacarme des shayatins. Ils sont les proches des chanteurs et de ceux qui écoutent. Et ce qui attire les shayatins fait fuir les anges, car les deux sont opposés. Ils ne peuvent être réunis. Ainsi, la maison dans laquelle s'élève le bruit de la musique attire les shayatins et éloigne les anges. Quelle sera donc la situation des gens de cette maison dans laquelle se réunissent les shayatins? Elle est une incitation également à la fornication et un appel à celle-ci. Et certains salafs ont dit, la musique, c'est la ruqiyah de la fornication. Ainsi, les chanteurs poussent les gens à écouter la musique dans laquelle est décrite la beauté des femmes, les histoires d'amour et de fornication et tout ce qui va dans ce sens, suscitant donc leur désir et leur passion, et plus particulièrement lorsque cette musique est accompagnée de sons musicaux qui se propagent et inondent chaque maison, envahissant chaque pièce, et de ce fait est écoutée par les petits et les grands, par les hommes et les femmes, hormis ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservés. Donc, ô mes bien-aimés frères, purifiez vos maisons de cette saleté et éloignez d'elles ces sons maudits, et remplissez-les par le rappel d'Allah et la lecture du Coran, afin que vous soyez parmi ceux qui réussissent. La quatrième de ces calamités est isbal, le fait de laisser traîner son pantalon ou son izar en dessous de ses chevilles. L'habillement fait certes partie des bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, pour lequel il est obligatoire de le remercier subhanahu wa ta'ala et de faire ses louanges. Il faut savoir que l'habillement implique un certain nombre de règles islamiques dont il est obligatoire de connaître et d'observer. Ainsi, pour les hommes, leurs habillements sont spécifiques à eux, dans leur forme et dans la façon de les porter. Tout comme pour les femmes, elles ont des habillements spécifiques à elles, dans leur forme et la façon de le porter. Et il n'est pas permis à un des deux genres de porter le vêtement de l'autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes maudit les hommes qui ressemblaient aux femmes et les femmes qui ressemblaient aux hommes. Et il est rapporté d'Abu Huraira radiallahu anhu qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les hommes qui portaient les vêtements des femmes et les femmes qui portaient les vêtements des hommes, comme l'a rapporté l'imam Ahmed et Abu Daoud. Le quatrième, donc comme on a dit, le quatrième de ces calamités, c'est Al-Isbel. Et il est donc interdit aux hommes de faire traîner leur izar, ce qu'ils portent en dessous, ou leur kamis, ou leur pantalon, au-dessous des chevilles, ce qu'on appelle en arabe Al-Isbel. Et ceci fait partie des grands péchés, min al-kaba'ir. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, au sens approché, il ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas les présomptueux pleins d'orgueil. Ibn Umar nous dit, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui laisse traîner son vêtement par arrogance, Allah ne le regardera pas le jour de la résurrection, comme l'a rapporté l'imam Bukhari et Muslim. Et Ibn Umar radiallahu anhu a mentionné également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-Isbel est dans Al-Izar et dans le Qamis et dans l'imama, et ce qu'on a sur la tête. Celui qui les laisse traîner par arrogance, Allah ne le regardera pas le jour de la résurrection. Rapporté par Abu Daoud et Nasa'i et authentifié par l'imam Al-Albani. Et Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ne regardera pas le jour de la résurrection celui qui laisse traîner son izar par fierté. Muttafaqun alayh. Et l'imam Ahmed ainsi que l'imam Al-Bukhari ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui se trouvent en dessous des chevilles sera au feu. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, trois types de personnes Allah ne leur parlera pas le jour de la résurrection et il ne les regardera pas et il ne les purifiera pas de leurs péchés, et ils auront un châtiment sévère. Al-Musbil, celui qui fait l'isbel, ce qui laisse traîner son pantalon ou son kamis. Al-Mannan, celui qui rappelle sans cesse ce qu'il a donné, et celui qui vend une marchandise en jurant par le mensonge, comme l'a rapporté l'imam Muslim. Et ne prêtez pas attention à celui qui dit que l'interdiction est seulement pour celui qui le fait de façon arrogante, mais elle est plutôt pour celui qui le fait par arrogance ou non. Et ceci est prouvé par le fait que le châtiment mentionné dans le hadith ou dans les ahadith est différent entre les deux catégories. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné celui qui fait traîner son pantalon par arrogance et il nous a donné un châtiment, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne le regardera pas yawm al-qiyamah. Et également il nous a mentionné celui qui le laisse traîner sans mentionner l'arrogance. Il a dit quoi? Il a dit que ceci sera au feu, tout ce qui sera en dessous du chevilles sera au feu. Donc on voit bien que les deux châtiments sont différents, ce qui implique que le châtiment est pour les deux types de personnes. Allah ne regardera pas le jour de la résurrection celui qui l'a fait de façon arrogante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a menacé du feu. Et celui qui le fait de façon non arrogante, excusez-moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a menacé du feu. Et donc, qu'il l'ait fait de façon arrogante ou non, dans les deux cas, il a commis un grand péché. Et la punition est plus sévère pour celui qui l'a fait de façon arrogante. Malgré ce châtiment sévère qui a été rapporté concernant celui qui laisse traîner son vêtement, on voit malheureusement certains musulmans qui ne prêtent pas attention à ce sujet. Ainsi, il laisse son pantalon ou son kamis dépasser des chevilles et même parfois traîner au sol. Et donc ceci est blâmable et haram. Cela est même un grand péché. Il est donc obligatoire pour celui qui pratique cette chose de se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et de relever son vêtement de la façon qui lui a été légiférée. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le izar du musulman arrive jusqu'à la moitié du mollet et il n'y a pas de mal s'il arrive entre la cheville et le mollet, et ce qui est en dessous de la cheville est au feu, comme l'a rapporté Imam Ahmed et Abu Daoud et authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah. Et à l'opposé de ces gens qui laissent traîner leurs vêtements, on a un autre groupe de personnes qui font l'inverse de ceci et qui remontent leurs vêtements au-dessus de leurs genoux et qui laissent donc apparaître leurs cuisses. Et les cuisses font partie de la aura, dont il est obligatoire de couvrir ou de les couvrir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, couvre ta cuisse car elle fait certes partie de la aura, comme l'a rapporté l'imam al-Tirmidhi et authentifié par al-Albani. Et concernant les femmes, la sunna est qu'elles laissent leurs vêtements traîner au sol de la longueur d'une coudée. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé ses compagnons de l'interdiction de l'isbel, Salama radiallahu anha lui a demandé, comment vont faire donc les femmes avec leurs vêtements qui traînent? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alors elles laissent la longueur d'un empan. Ça y est, bien ce qu'il y a entre l'auriculaire et le pouce. Elle répondit alors le pied de ces femmes vont être découverts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rétorqua, elle laisse alors une coudée et elle ne rajoute rien à cela. Rapporté par Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. Et mes frères, regardez aujourd'hui, subhanallah, comment se comportent certains musulmans. Les vêtements des hommes traînent par terre, alors que celui des femmes arrive au mollet des femmes. Et ils ont inversé la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam bien-aimé, de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. On demande ainsi à Allah subhanahu wa ta'ala le secours. La cinquième et la dernière de ces calamités qu'on va mentionner aujourd'hui, c'est la photographie. Il est certes venu de nombreux ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui indiquent le caractère haram de la représentation des êtres doués d'une âme, qu'ils soient humains ou autres, ainsi que l'ordre de déchirer les rideaux sur lesquels se trouve une image, et également l'ordre de détruire les images. Il est également venu l'annonce de la malédiction sur ceux qui représentent les êtres doués d'une âme et qu'ils seront les gens au plus dur châtiment, Yom al-Qiyama. Je vais ainsi vous citer quelques hadiths qui ont été rapportés à ce sujet, ainsi que la parole de certains savants. Il est donc rapporté dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim que Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, certes les personnes qui ont le châtiment le plus dur le jour de la résurrection sont ceux qui font des représentations. Et ils ont également rapporté d'après Ibn Umar, yani Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Ibn Umar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes ceux qui représentent ces images seront châtiés le jour de la résurrection. Et il leur sera dit, faites vivre ce que vous avez créé. Et l'imam al-Bukhari a rapporté dans son authentique, selon Abu Juhayfa radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celle qui tatoue, celle qui fait des tatouages, et celle qui se fait tatouer, ainsi que celui qui fait des représentations. Et Ibn Abbas radiallahu anhu nous a rapporté qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui représente des images dans cette dunya, il lui sera demandé le jour de la résurrection de lui insuffler l'âme alors qu'il n'est pas quelqu'un qui insuffle l'âme, comme l'a rapporté Al-Bukhari et Muslim. Et Muslim nous rapporte que Saïd ibn Abi Hassan a dit qu'un homme vint voir Ibn Abbas radiallahu anhum et lui dit, je suis un homme qui représente ces images, donc donne-moi une fatwa à ce sujet. Il lui dit, rapproche-toi de moi. Alors il se rapprocha de lui. Puis il dit, rapproche-toi de moi. Alors il se rapprocha de lui. Jusqu'à qu'il posa sa main sur sa tête et dit, je t'informe de ce que j'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne qui représente une image est au feu. Et il lui sera insufflé pour chaque image qu'il a représentée une âme. Et chaque âme sera châtiée dans l'enfer. Et Ibn Abbas radiallahu anhu a dit, si tu es obligé de représenter quelque chose, représente un arbre ou toute chose qui n'a pas d'âme. Et il est rapporté de Aisha radiallahu anha qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à moi et j'ai couvert une étagère à moi par un rideau où il y avait des représentations. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aperçut, il le déchira et son visage se mit à changer de couleur. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, ô Aisha, les gens qui auront le plus dur châtiment auprès d'Allah le jour de la résurrection seront ceux qui représentent la création d'Allah. Alors Aïcha radiallahu anha a dit, nous les découpâmes puis nous en fîmes un coussin ou deux, rapporté par Muslim. Et il est rapporté également de Aïcha radiallahu anha qui a dit, j'ai acheté des coussins sur lesquels il y avait des images. lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les aperçut, il s'est tenu debout devant la porte et il n'est pas rentré. Et j'ai vu sur son visage la désapprobation. Et il lui dit, oh messager d'Allah, je me repens à Allah et à son messager. Qu'ai-je fait comme péché? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que ces coussins? Qu'est-ce que sont ces coussins? Elle dit, je les ai achetés pour toi afin que tu puisses t'asseoir dessus et t'en servir comme oreiller. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, certes ceux qui ont représenté ces images seront châtiés le jour de la résurrection et leur sera dit, faites vivre ce que vous avez créé. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes les anges ne rentrent pas dans la maison dans laquelle se trouvent des images, rapportées par Al-Bukhari et Muslim. Wa Ibn Abbas a dit, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, les anges ne rentrent pas dans les maisons dans lesquelles se trouvent un chien et des images. Comme l'a rapporté l'imam Al-Bukhari et Muslim. Et dans l'authentique de l'imam Al-Bukhari, Ibn Umar radiallahu anhuma a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'ange Jibril alayhi salam a dit, je n'entre pas dans une maison où se trouve un chien ou une image. Et Abu Daoud al-Tayalisi a dit dans son Musnad qu'il a rapporté selon Oussam radiallahu anhu, qui a dit, j'ai rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Kaaba et il sallallahu alayhi wa sallam a perçu des images. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque, il est rentré dans la Kaaba et il a vu dans la Kaaba des images et il a donc demandé un seau avec de l'eau. Alors Oussam a rapporté ce seau et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à enlever ces images et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah combatte les gens qui représentent ce qu'ils ne créent pas. Et Ibn Hajar a dit que ce hadith a été rapporté avec une bonne chaîne de transmission. Tous ces hadiths, plus ceux qui ont été rapportés dans le même sens, nous montrent de façon claire l'interdiction des images représentant les êtres doués d'une âme. Et que ceci fait partie des grands péchés. Et que celui qui le fait est menacé du feu de l'enfer. Et ces hadiths sont généraux pour tout type de représentation, qu'elle possède une ombre ou pas. Qu'elle soit sur un mur ou sur un rideau, sur un qamis ou sur une feuille ou autre, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas différencié entre celles qui ont une ombre ou celles qui n'ont pas. Quand on dit celles qui ont une ombre, par exemple, certaines personnes prétendent que ce sont les représentations, les idoles, comme les statues, etc. Les statues, elles ont une ombre. Quand il y a le soleil, il y a l'ombre de la statue qui apparaît. Alors que ces personnes prétendent que les photos, les images ou les dessins, ils n'ont pas d'ombre, ils ne sont pas, c'est quelque chose qui n'ont pas d'ombre lorsque le soleil tape dessus. Taïeb. Donc là, le prophète sallam n'a pas fait de différence entre les deux. Mais plutôt, le prophète sallam est venu de façon générale. Il n'a pas différencié également ceux qui sont sur un rideau ou autre. Mais plutôt, il a maudit ceux qui représentent ces images. Et il, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé qu'ils étaient les gens qui auront le plus dur châtiment le jour de la résurrection. Et que chaque personne qui représente des images est vouée au feu. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, de façon générale, sans faire d'exception. Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit, nos compagnons et autres parmi les savants ont dit que la représentation d'êtres vivants est très fortement haram. Cela fait partie des grands péchés, car celui qui représente ces images est menacé d'une menace très dure, comme cela est mentionné dans les hadiths, que cela soit sa profession ou non, yani que ce soit quelqu'un qui a sa profession de faire des images, ou que quelqu'un qui fait des images comme ça. Ainsi, son œuvre est haram de n'importe quelle manière, car il y a en cela une représentation avec la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que cela soit sur un nabi, ou que cela soit sur un tapis, ou une maison, ou sur de l'argent, ou sur un récipient, ou sur un mur, ou autre que ceci. Et en ce qui concerne la représentation d'arbres ou autres parmi les choses où il n'y a pas d'être vivant, ceci n'est pas interdit. Jusqu'à qu'ils disent, rahimahullah, yani al-Nawawi, il n'y a pas de différence entre ce qui possède une ombre ou pas. Et ceci est un résumé de notre madhab, yani du madhab al-Shafi'i. Al-Nawawi, comme il est connu, était sur le madhab al-Shafi'i concernant cette affaire. Et c'est la parole de la très grande majorité des savants. Parmi qui? Parmi les sahaba et ceux qui les ont suivis, les tabi'in et ceux qui sont venus après eux. Et c'est le madhhab de qui? De Sofiane al-Thawri et de l'imam Malik et d'Abu Hanifa et d'autres. Et en ce qui concerne les photos, celles-ci sont considérées comme des représentations, comme al-taswir, selon le consensus des spécialistes, qu'elles soient prises avec un téléphone ou autre. Et le jugement des photos est une affaire récente. Elle est apparue à notre époque. Et les plus grands savants parmi les gens de science ont opté pour son interdiction du fait du caractère général des textes à son sujet et de la présence de la raison de son interdiction. Et les textes concernant l'interdiction des représentations englobent ce type de représentation. Et la règle concernant les textes généraux, c'est qu'ils englobent tout ce qui rentre sous la même nomination jusqu'au jour de la résurrection. Et également parce que la raison de l'interdiction des représentations est aussi présente dans la photographie. Les raisons pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit les images et les représentations, les mêmes raisons sont présentes dans la photo. Et l'avis de certains disant que la photo est seulement une capture d'une chose palpable et où elle est telle un regard dans un miroir, certains usent cette ambiguïté pour permettre la photo. Ceci n'est pas correct, car le miroir reflète la réalité telle qu'elle. Et si l'individu bouge, alors ses mouvements sont reflétés. S'il sourit, alors son sourire est reflété. Et donc l'image qui est reflétée est une image vivante de ce qui est devant elle. Alors que la photo, c'est une image immobile, où il n'y a pas d'âme. Et c'est justement sur cette caractéristique que la menace est venue. Ainsi, il n'est pas permis d'avoir recours à la photographie, excepté dans les cas de force majeure, comme l'ont mentionné les savants, tels que les photos d'identité pour les passeports, pour reconnaître l'identité de la personne. وبهذا أختم بيان تحريم هذه المصائب الخمسة التي اشتد استخدامها في زماننا هذا فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا وأبناءنا ونساءنا وجميع المسلمين من هذه المصائب كما نسأله أن يتوب على من وقع فيها فإنه الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد كلام الكونفرنس notre frère عبد الحليم pour ce rappel très bénéfique concernant ces fléaux qui sont répandus au sein de la communauté, Wallahu Musta'an. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de tous nous aider à lutter contre nos âmes pour nous réformer et délaisser ces choses interdites d'après les textes clairs du Coran et de la Sunna. Il y a ici une question d'une personne qui demande: est-ce que les enfants, s'ils écoutent de la musique, ils ont du châtiment? Donc je pense que ce qui est visé, c'est du péché peut-être. Wallahu a'lam. Tout d'abord, comme il est venu dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la plume est levée pour trois. Et parmi eux, il a mentionné l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Donc l'enfant, avant qu'il soit pubère, quelles que soient les choses qu'il fait, il n'a aucun péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, les savants, rahimahumullah ta'ala, ont mentionné que le péché revient sur ses parents ou la personne qui est responsable de l'enfant. L'enfant, il est soumis aux mêmes ordres, aux mêmes interdits. Toutefois, lui, s'il ne se soumet pas à ses ordres et qu'il ne délaisse pas les interdits, il n'a pas de péché. Le péché, il est sur qui? Il est sur la personne qui est responsable de lui. Donc, si un enfant écoute de la musique et que ce sont ses parents qui le laissent écouter de la musique, alors ses parents sont dans le péché. Ils doivent se réformer et veiller à donner une bonne éducation à leurs enfants. La musique, elle fait naître l'hypocrisie dans les cœurs. Est-ce que tu souhaites que ton enfant grandisse avec cette hypocrisie qui naît dans son cœur? Pourquoi ne l'habituerais-tu pas plutôt à l'écoute de la parole de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala? Habitue ton enfant à écouter le Coran. Habitue ton enfant à écouter le hadith. Habitue ton enfant à écouter la biographie des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Des choses qui vont l'aider à grandir d'une manière vertueuse bi'idhnillahi ta'ala. Et comme l'ont mentionné les savants, l'enfant, il sera quand il sera grand selon ce sur quoi il était quand il était petit. C'est-à-dire que ce à quoi il s'habitue lorsqu'il est petit, il y a de grandes possibilités qu'il reste dessus quand il soit grand. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a mentionné selon le sens que la majorité de la corruption présente chez les enfants, elle est due à cause de quoi? à cause de leurs parents. Donc il faut prendre garde à cela et faire des efforts et veiller à donner une éducation religieuse, vertueuse et correcte à nos enfants. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réformer, de réformer les enfants des musulmans. Wallahu ta'ala a'lam. Les frères, inshallah, ceux qui ont besoin de faire des ablutions, allez-y, on demande aux sœurs de rester dans leur musalla. Et inshallah, après cela, on fera l'inverse comme tout à l'heure et on va prier salat al-isha. Puis, on fera la troisième conférence, inshallah. Barakallahu fikum.